La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Christophe Barbier et Lucie Robquin des Échos sont nos esprits libres ce matin. Bonjour à tous.
Bonjour
les deux.
Bonjour David.
Merci d'être là. Alors, nous partons en Corse parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Cette nuit, c'est signé un accord entre l'État et les élus corses sur l'avenir et l'autonomie de la Corse. Alors, je résume grâce à Augusta Lefebvre qui proposait un sujet là-dessus tout à l'heure. Un accord qui prévoit que les lois et règlements pourront faire l'objet d'adaptations sur l'île de Beauté. Un véritable pouvoir législatif pour la Corse. Les domaines de compétences seront définis par une loi organique. Le ministre de l'Intérieur cite par exemple l'urbanisme ou le foncier. Chaque texte sera soumis au double contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. En revanche, il y a des choses que l'accord ne prévoit pas ou qu'il refuse. Pas de statut de résident de l'île, pas de notion de peuple corse, mais de communauté culturelle. Pas de co-officialité de la langue, ce qui veut dire que les documents administratifs seront toujours rédigés en français et non pas en Corse. Comment vous recevez cette évolution? Ça va dans le bon sens?
Ça va dans un sens qui sert aux deux parties, c'est-à-dire Gérald Darmanin a réussi à mener à bien les discussions, et puis Gilles Simeoni du côté des Corses a montré que la main tendue par le gouvernement avait été saisie par les Corses, qui ne laissaient pas passer l'occasion. Maintenant, on est loin d'arriver au terme. D'abord parce que la collectivité territoriale corse va délibérer sur ce texte et va le durcir. Par exemple, la co-officialité de la langue, je suis assez persuadé qu'ils vont essayer de le remettre. Le terme peuple à la place du terme communauté culturelle, il y aura des nationalistes pour essayer de le réintroduire. Et ensuite, ça reviendra devant les instances de la démocratie représentative nationale. Et on voit bien qu'au Sénat, notamment où les Républicains sont majoritaires, il n'y a pas de cadeau qui sera fait pour la Corse si la Corse voulait se séparer de la nation, c'est-à-dire faire elle-même ses propres lois et considérer que si vous êtes français mais que vous n'avez pas quatre grands-parents corse, vous ne pouvez pas venir chez eux ou vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits. Donc on est loin d'arriver à l'inscription dans la Constitution de quelque chose de définitif. Ce qui est très important pour moi, c'est que on reconnaît l'insularité, on reconnaît, et c'est écrit comme cela, un lien spécifique à sa terre. Voilà. Et ça, je pense que c'est déjà beaucoup pour montrer que la nation française, elle est la République une et indivisible, mais qu'il y a des spécificités régionales. Et ça sera vrai pour les Bretons, les Basques ou les Hauts-Savoyards tout autant.
Lucie Robquin, et c'est un Hauts-Savoyard qui parle. Lucie Robquin.
Oui, c'est vraiment une ligne de crête. L'idée, c'est de ne pas séparer la Corse de la République. Donc, il y a cette volonté vraiment de ne pas reconnaître le peuple corse en tant que tel. C'est important. Et de ne pas reconnaître le Corse comme une langue officielle. Ça va être très difficile à passer au Parlement. On sait que Gérard Larcher est farouchement hostile à tout transfert de compétences législatives à l'Assemblée de Corse. Il l'a déjà fait savoir. Bruno Retailleau aussi. Et on rappelle que ce texte va devoir être approuvé aux 3/5 par le Parlement. Donc il y aura autant de résistance du côté des autonomistes corses que des élus au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler les conditions effroyables dans lesquelles ce débat a commencé. C'était en mars 2022. C'est quand Ivan Colonna a été tué en prison par l'un de ses co-détenus. Et pour Emmanuel Macron, c'était le seul moyen d'apaiser l'île. On sait qu'à l'origine, il n'est pas vraiment allant sur cette question corse et qu'il a été un peu contraint et forcé. On va donc voir l'aboutissement de ces discussions et, comme dit Christophe, c'est loin d'être acquis.
Une question un peu triviale, mais je voudrais votre sentiment là-dessus. Les Français de métropole, quand ils voient revenir ce débat récurrent sur l'autonomie de la Corse, quand ils entendent les revendications des indépendantistes, ils disent mais qu'on leur donne l'indépendance et qu'ils nous fiche la paix. C'est une réaction à la fois épidermique et d'exaspération. Non, c'est... Comment faut-il la recevoir?
C'est une réaction stupide. Parce que si on leur donne l'indépendance, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura immédiatement un effondrement économique de cette île qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins sans l'aide de la métropole. Donc elle se jettera dans les bras du crime. Ça deviendra une île casino, une île de spéculation, une île de narcotrafiquants. C'est l'argent des mafias qui entourent ce bassin méditerranéen qui viendra prendre possession de la Corse. Et que feront ces criminels? Ben, ils prendront d'assaut la métropole, ensuite le continent. Donc c'est stupide. La Corse sans la France n'est plus rien. La France sans la Corse, elle est en danger, ça sera beaucoup moins bien. Par ailleurs, on ne peut pas brader l'île qui nous a donné notre plus grand souverain de l'histoire, à savoir Napoléon.
Lucie Robquin, les Français disent mais l'île nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte. Enfin, quand la mauvaise humeur et les passions tristes s'en mêlent, on trouve toutes les bonnes raisons d'abandonner l'île de Beauté.
Oui, un rapport d'amour-haine avec cette île, évidemment. On parle là d'autonomie, bien sûr, et pas d'indépendance. Et ça va être intéressant, d'ailleurs, car les indépendantistes corses considèrent que ça doit être qu'une période transitoire, l'autonomie. Ça doit être le passage vers faire une réelle indépendance. On a ce même débat en Polynésie, hein, où les indépendantistes estiment que le statut d'autonomie dont ils bénéficient aujourd'hui va ouvrir la voie plus tard à l'indépendance. Je pense qu'on en est très très loin pour la Corse, comme pour la Polynésie, et heureusement.
Et tant mieux.
Et tant mieux.
On va parler de l'Ukraine aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Grand débat parlementaire sur la question et les modalités du soutien français à l'Ukraine. Guillaume Tabar évoquait tout à l'heure la stratégie d'Emmanuel Macron et des macronistes. Clivés encore en agitant le chiffon rouge des sympathies russes du Rassemblement national. Certains disent la ficelle est bien plus que grosse. Peut-elle fonctionner ?
Oui.
Enfin, bien sûr, c'est un piège pour le Rassemblement national. D'ailleurs, Jordan Bardella vient d'annoncer que le Rassemblement national s'abstiendrait. Comment peut-on s'abstenir sur une question aussi importante que l'Ukraine ? Tout va être perçu comme une forme de mansuétude à l'égard de Vladimir Poutine. On reproche déjà beaucoup à Marine Le Pen sa proximité avec le Kremlin, sa proximité passée. C'est une ligne qui est très difficile à défendre aujourd'hui pour le Rassemblement national. C'est aussi une ligne très compliquée pour la gauche. On sait que LFI et le Parti communiste vont voter contre ce pacte. Le PS et les Verts vont plutôt voter pour, donc il y a une division de la gauche et c'est même un piège pour Raphaël Glucksmann qui est à gauche la personnalité qui défend le plus fermement l'Ukraine et qui va passer un petit peu comme le supplétif d'Emmanuel Macron dans cette affaire. Donc c'est un piège pour toutes les oppositions.
Christophe Barbier, on dit que c'est un piège, mais on peut défendre l'idée, quand on est dans l'opposition, qu'il y a instrumentalisation par Emmanuel Macron de cette question ukrainienne et qu'effectivement, on ne jouera pas le jeu du piège tendu.
Si vous ne regardez que la lettre du texte soumis aux parlementaires aujourd'hui, il s'agit de ratifier un accord bilatéral d'assistance militaire. Donc vous votez oui, c'est évident, 3 milliards en 2024, bon. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a évidemment le contexte, et le contexte, c'est Emmanuel Macron qui dit nous ne pouvons rien exclure, qui évoque l'envoi de troupes, et qui est monté d'un cran dans le bras de fer verbal avec Vladimir Poutine. Si vous votez ce texte, bien sûr, vous cautionnez aussi le contexte. Et c'est là que le piège pervers, cynique, mais très habile d'Emmanuel Macron va se refermer. Voter contre aujourd'hui, ça ne sera pas perçu comme étant un vote contre Macron et ses manœuvres, ça sera perçu comme étant un vote pour Vladimir Poutine. Et donc, certaines oppositions vont plonger tête baissée dans le panneau.
Est-ce que ça ressemble, si on fait un peu d'histoire, Christophe Barbier, au débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale au temps de la guerre d'Espagne ? Est-ce que les clivages sont comparables ? Parce que on passe notre temps à dire attention, comparaison n'est pas raison, les années 30 sont pas les années 2020, etc. Enfin, quand vous ouvrez les livres d'histoire, il y a quand même de sacrées similitudes dans le crescendo.
Oui, c'est-à-dire interventionnisme ou non-interventionnisme. Mais il y a deux différences majeures. D'abord, à l'époque, si Blum décide de ne pas intervenir en Espagne, c'est parce que ça ferait exploser sa propre majorité. Il divisait pas l'opposition. Diviser le Front Populaire, où on sait que les radicaux auraient claqué la porte. Par ailleurs, au niveau international, même si c'est parfois un peu disloqué, l'Union Européenne est globalement pour le soutien à l'Ukraine. Tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Union Européenne, et Blum se tournait vers les Anglais, qui disaient un no ferme, ils n'auraient pas suivi dans une montée belliqueuse entre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Donc Blum était d'une certaine manière coincé, il a préféré procéder clandestinement. Mais la véritable erreur de Blum, c'est pas de ne pas être intervenu en Espagne, il ne pouvait pas. C'est de ne pas être intervenu en Rhénanie, quand l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie. Et là, on peut faire la comparaison historique.
Lucie Rocard.
Sur la forme, Emmanuel Macron a commis beaucoup de maladresses. C'était une erreur de parler d'un potentiel envoi de troupes sur le sol ukrainien. Ça, c'est incontestable. Sur le fond, il n'a pas tout à fait tort. On envoie déjà des experts en Ukraine sans le dire. Zelensky l'a encore confirmé dans une interview ce matin. Ils ont besoin de personnes pour former leur personnel sur le sol ukrainien. Ce ne sont pas des troupes au sol. Ce sont des experts, des conseillers. Et là, sachez que Emmanuel Macron a gagné beaucoup de points auprès des pays baltes, auprès de la Pologne, et que l'influence de la France, ça se joue aussi à travers ce genre de déclaration.
Est-ce que ça nous positionne bien pour la reconstruction de l'Ukraine et être aux côtés de cet État quand la guerre sera terminée?
Oui, les entreprises françaises sont prêtes. On a déjà beaucoup de projets de reconstruction. On n'en est malheureusement pas là, mais je pense que la France sera un acteur essentiel de cette reconstruction.
Nous allons terminer sur un mode plus léger. Je vais demander aux mélomanes de s'éloigner du poste ou de rester à proximité, mais avec toutes les prudences. Nous allons écouter Aya Nakamura dans son tube planétaire Dja Dja.
Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja, j'suis pas ta cata Dja Dja, genre en katana baby tu dettes ça. Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja.
Il n'y a pas moyen d'éviter la polémique, si j'ose dire, puisque depuis que l'Express a diffusé cette information selon laquelle la chanteuse Aya Nakamura était pressentie pour chanter du Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça déchaîne les passions, à la fois ceux qui estiment que la langue française doit être mieux représentée, ceux qui, comme les identitaires, les natifs, groupements d'extrême droite, estiment, et je les cite, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako, avec des relents évidemment racistes et condescendants. C'est une des polémiques dont la France a le secret, où finalement, la question de la langue, la question du talent artistique, la question de l'incarnation de la France est quelque chose de central dans la perspective de cette cérémonie des Jeux Olympiques, Lucie.
C'est effectivement une polémique dont la France a le secret. Aya Nakamura n'est pas la première à en être victime. On se souvient du rappeur Youssoupha, hein, qui devait composer l'hymne de l'Euro en 2021. Ça avait été monté en épingle par Jordan Bardella et finalement la Fédération Française de Football avait renoncé à Youssoupha. Donc là, Aya Nakamura est un peu critiquée pour les mêmes choses. Elle ne fait pas rayonner la langue française autant qu'elle le devrait. Là, vous avez entendu un extrait de Djadja. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du malien. C'est un peu de la France métissée qui heurte une partie de notre société. Alors, il faut quand même savoir que c'est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde de très très loin. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vos enfants adorent. Elle a été, ce tube là, Djadja a été vu 1 milliard de fois sur YouTube.
C'est la première fois que ça arrive à une chanteuse
française. Donc c'est quand même aussi la France qui gagne. Les États-Unis n'ont pas de telles pincettes quand ils ont un champion national à faire valoir, qu'il soit noir ou autre.
C'est vrai qu'ils nous envoient Taylor Swift, on pourrait leur envoyer Aya Nakamura.
En tout cas, la polémique n'est pas prête de s'éteindre et je pense qu'Aya Nakamura n'a jamais autant fait parler d'elle grâce à Reconquête.
Christophe Barbier, la question de la langue, je crois, est centrale. Si on met de côté la contestation de la personne pour des raisons clairement racistes, reste à Bamako ou on n'est pas au marché de Bamako.
Et sexiste.
Évidemment sexiste. Il y a la question de la langue. On a inauguré il y a quelques mois quand même une cité internationale de la langue française. Si Aya Nakamura agace, c'est parce qu'elle évidemment joue avec les mots. On trouve le vieux français avec la catin dans ses chansons et en même temps on va trouver Djadja, on sait pas trop ce que ça veut dire, on va mélanger les mots. Dans les années 90, du temps où la France chantait l'Éthiopie, où Maxime Le Forestier, où Johnny Clegg était en tête du hit parade, les chansons métissées en France posaient moins de problèmes.
Moins de problèmes parce qu'elles étaient métissées par les thèmes, c'était une sorte de regard altruiste vers l'autre, vers l'étranger, vers son altérité. Elles n'étaient pas métissées par le contenu de la langue. Et là, Aya Nakamura, comme vous l'avez dit, elle mélange les langues pour essayer de revitaliser le français, de diluer le français. Donc évidemment, ça choque beaucoup les identitaires.
Diluer ou le revitaliser ?
Les deux, c'est donner un autre goût, pimenter. Soit c'est un projet politique, vous allez vers la créolisation, cher Jean-Luc Mélenchon, et là c'est contestable, parce qu'on n'a pas à détruire comme ça une identité pour se fondre dans un melting pot linguistique international. Si vous le voyez comme une manière de challenger, et je continue avec les termes anglais volontairement, la langue française pour montrer comment elle résiste, ça peut être intéressant. La culture, c'est du business et du patrimoine. D'évidence, Aya Nakamura, Lucie nous l'a expliqué, c'est un énorme commerce, tant mieux pour la France, le soft power, encore un mot anglais. En revanche, c'est pas du patrimoine. Et on part d'une fausse information, parce que c'est pas officiel qu'elle va chanter aux Jeux Olympiques, c'est une rumeur pour l'instant, et on voudrait lui faire porter du patrimoine, la France internelle. Ce qui choque, c'est pas qu'elle chante, c'est qu'elle chante du Piaf. C'est idiot de lui faire chanter du Piaf. Laissons Nakamura chanter du Nakamura avec ce mélange linguistique poético-pittoresque.
Oui, mais Edith Piaf n'est pas libre.
Eh ben, on fait venir Hugo Frey, voilà, si on veut. Et puis au milieu, on met Benjamin Biolay, comme ça on aura de la vraie bonne chanson avec des vrais bons textes.
On écoute du Paganini parce que le violon livre ses secrets au scanner du côté de Gênes en Italie. Mais je voudrais qu'on termine avec Aya Nakamura sur les paroles. Les paroles de la chanson de Djadja, c'est une scène de dépit amoureux, moderne. Elle lui dit, je suis pas une catin, je veux pas de toi. Est-ce qu'on a dans le patrimoine linguistique, chez Molière, je ne sais où, une servante, une femme qui dit, mais je ne suis pas celle que vous croyez.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis pas si prompte, et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Voilà ce que Dorine répond à Tartuffe, après la fameuse phrase de Tartuffe, couvrez ce sein que je ne saurais voir.
Et ça s'appelle un râteau. Merci à tous les deux.